Sans pour autant verser dans l'insouciance, qui aimerait pouvoir ne jamais s'inquiéter à tort? J'ai un petit peu réfléchi à l'inquiétude, j'ai regardé les significations de ce mot. En fait, il y a deux volets, deux revers, deux côtés de la médaille. S'inquiéter, c'est à la fois une noble attitude, quand cela est synonyme de porter une attention particulière ou un vif intérêt à quelque chose ou à quelqu'un. Mais c'est aussi une chose terrible quand cela est synonyme d'anxiété, d'angoisse, de tourment, de crainte, d'agitation. Et autant il peut être fructueux de s'intéresser à des personnes ou à des causes, autant il peut être destructeur de se laisser envahir par la crainte. Pour qui ou pourquoi nous inquiétons-nous? On peut s'inquiéter pour soi-même, on peut s'inquiéter pour son conjoint, pour ses enfants, pour ses parents, ses frères et sœurs, ceux que l'on aime, ceux à qui on porte une attention particulière. Pourquoi nous inquiétons-nous? Quel est le mécanisme, quelque part, de l'inquiétude? En fait, moi, je pense que l'inquiétude est lié aux incertitudes que l'on peut rencontrer par rapport à des difficultés de toutes sortes. Ça peut concerner la subsistance, la santé, la scolarité, les relations, les émotions. Ça peut être des examens ou des concours, des choix de vie, un avenir professionnel. Et si nous savions comment cela allait se passer, et comment cela allait se terminer, probablement que nous serions moins inquiets. En fait, l'inquiétude exprime nos craintes de ce qui va arriver ou de ce qui pourrait arriver. Alors imaginez un homme marié, père de famille, qui vient de faire une année à l'Institut biblique, qui commence un stage pastoral dans une église, où l'Église ne lui propose comme soutien financier 80 euros par mois. Imaginez donc que cet homme, pour compléter cet engagement-là, un jour écrit évidemment une lettre pour solliciter la contribution, le soutien de sa famille ou de ses amis. Cet homme envoie cette lettre, chose qu'il avait effectivement un intérêt à faire, et voilà les lettres parties. Imaginez les pensées que cet homme a eues en écrivant les adresses peut-être des gens en disant « Ah, cette personne-là, c'est quand même quelqu'un de bien, ou c'est quelqu'un qui a des bons revenus, qui pourrait quand même m'aider. » Imaginez aussi son attitude chaque matin quand il va à la boîte aux lettres, en regardant quels ont été les retours à son courrier. L'inquiétude qui grandissait en lui quand il voyait que finalement il y avait peu de retours, que les gens à qui il avait pensé apparemment ne s'intéressaient pas. Jusqu'à ce qu'il comprenne que si Dieu l'avait appelé à faire un institut biblique pour être ensuite pasteur, que Dieu pourvoirait à ses besoins matériels. Jusqu'à ce jour-là. Cet homme, c'est moi. Voilà. Peut-être que vous le savez. Je vous invite à lire l'évangile de Luc, au chapitre 12, les versets 22 à 32. Où Jésus nous parle de l'inquiétude. Évangile de Luc, chapitre 12, versets 22 à 32. Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous le dis. Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce que vous serez habillé. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Observez les corbeaux. Ils ne sèment pas, ne moissonnent pas, ils n'ont ni cave ni grenier, et Dieu les nourrit. Vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Qui de vous peut par ses inquiétudes ajouter un instant à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez rien faire, même pour si peu, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Observez comment poussent les plus belles fleurs. Elles ne travaillent pas, elles ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au feu, il le fera d'autant plus volontiers pour vous, gens de peu de foi. Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez ni ce que vous boirez, ne soyez pas inquiets. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples du monde qui le recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Recherchez plutôt le royaume de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. N'aie pas peur, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Si je vous interrogeais sur vos inquiétudes actuelles, on aurait peut-être chacun une grande liste. Nous allons essayer de voir ce matin comment faire le tri dans toutes nos inquiétudes pour pouvoir nous inquiéter des bonnes choses. Et la première question qu'on peut se poser, c'est: nos inquiétudes sont-elles légitimes? Il est possible que nos inquiétudes soient fondées justes, mais il est aussi possible qu'elles soient infondées, irraisonnées. Et certains, on sait que certains sont des champions pour toujours imaginer le pire de ce qui pourrait arriver, sans que cela n'arrive jamais. Alors ceci nous amène à nous poser la question: de quoi est-il légitime de nous inquiéter? Et ce n'est pas anodin si le discours de Jésus sur l'inquiétude fait suite à la parabole du riche dépourvu de bon sens. Si vous regardez quelques versets en arrière, des versets 13 au verset 21. Ce riche qui dépense toute son énergie, toute son intelligence, tout son temps à amasser des biens pour lui-même. Et le texte nous dit, sans se préoccuper de sa destinée éternelle, en utilisant l'expression « sans être riche pour Dieu ». Et Jésus enchaîne en disant « C'est pourquoi, je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce dont vous serez habillé. » Jésus nous invite donc à avoir une approche, une bonne approche de notre vie. Et il propose ici deux réflexions. Tout d'abord, il nous invite à regarder en haut. La vie est plus que la nourriture et le corps que le vêtement. Jésus veut que nous relativisions l'importance des biens matériels par rapport à ce que représente la vie, ce que représente ce souffle de vie qui est en chacun de nous. Et permettez-moi de citer le discours de Paul à Athènes. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes, il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose. Il est donc primordial de se souvenir que c'est Dieu qui nous a créés, que c'est Dieu qui a mis en nous le souffle de la vie, que c'est Dieu qui maintient notre vie, en particulier notre corps, chaque seconde qui se passe. Et en ayant conscience de cette réalité, cela nous donne un autre sens, un sens à notre vie. Cela nous permet d'avoir un recul nécessaire pour aborder nos difficultés, nos inquiétudes et une dimension nouvelle à intégrer dans nos vies. Parce que suivons bien le raisonnement de Jésus. Car si Dieu prend soin de ce qu'il y a de plus important, notre vie, notre corps, à combien plus forte raison est-il attentif à ce que nous ayons nourriture et vêtements? Et si en tant que créateur, il est attentif aux besoins de ses créatures, à combien plus forte raison le sera-t-il en tant que Père céleste aux besoins de ses enfants? En sommes-nous convaincus? Sommes-nous convaincus? Pour compléter, Jésus, dans un deuxième temps, nous invite à observer ce qui se passe ici-bas. Et je voudrais qu'on relise rapidement les versets 24, 27 et 28. Observez les corbeaux. Ils ne sèment pas, ne moissonnent pas, ils n'ont ni cave ni grenier, et Dieu les nourrit. Observez comment poussent les plus belles fleurs. Elles ne travaillent pas, elles ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si la providence de Dieu s'étend aux oiseaux du ciel et aux prés qui sont autour de nous, nous, êtres humains, qui aux yeux de Dieu sommes beaucoup plus précieux que les oiseaux, les fleurs, ne pouvons-nous pas lui faire confiance pour notre nourriture et nos vêtements? Le psaume 127 dit ceci: si une maison n'est pas construite par l'Éternel, ceux qui la construisent travaillent inutilement. Si une ville n'est pas gardée par l'Éternel, celui qui la garde veille inutilement. C'est inutilement que vous vous levez tôt, que vous vous couchez tard, que vous mangez un pain gagné avec peine. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant le sommeil. Nous sommes invités à ne pas oublier Dieu, pour que nous puissions nous inquiéter des bonnes choses. Nous sommes invités à nous rappeler que nous sommes dans les bonnes mains de Dieu. Et cela va changer nos craintes, ça va éliminer de nos cœurs un grand nombre d'inquiétudes qui ne peuvent pas avoir place dans un cœur dans lequel Dieu a pris la première place. Alors nous venons de nous poser la question si nos inquiétudes étaient légitimes. Et je propose que nous voyons dans un deuxième temps la question suivante: nos inquiétudes ont-elles un impact sur le réel? Et Jésus pose dans les versets 25 à 26 la question qui tue. Qui de vous peut, par ses inquiétudes, ajouter un instant à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez rien faire, même pour si peu, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Alors je nous pose la question: qui parmi nous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Allez-y, levez la main. Qui? C'est vrai ça, se faire du souci, ça a plutôt tendance à nous raccourcir notre vie qu'à la prolonger. Alors, je nous le demande, à quoi ça sert? À quoi ça sert de se tourmenter et de se tracasser si ça ne résout rien aux situations qui nous font nous inquiéter? Nous sommes donc devant un constat terrible. Et nous devons nous raisonner. Dans les situations où nous n'avons aucun pouvoir d'action, et elles sont nombreuses, s'inquiéter est inutile et destructeur. Réfléchissons un petit peu à ce que les inquiétudes génèrent en nous. Ça peut nous atteindre dans notre santé. Ça peut nous atteindre dans notre efficacité quotidienne. Ça peut influencer nos relations avec les autres. Il y a en fait une grosse différence entre l'inquiétude et une authentique préoccupation. L'inquiétude nous immobilise, la seconde, au contraire, nous mobilise et nous pousse à l'action. Alors, il faut se rendre compte que là où on peut agir pour changer une situation, il est de notre devoir d'agir pour apporter un mieux à cette situation. Mais là où les situations nous échappent, pourquoi continuer à s'angoisser, à se stresser, à rendre la vie impossible à ceux qui nous entourent, à se miner de l'intérieur? Pourquoi? Jésus nous avertit, prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les soucis de la vie. Mes frères et sœurs, mes amis, le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine, dit Jésus dans le texte parallèle de Matthieu. Alors ne laissons pas demain pourrir notre aujourd'hui. Vous allez me dire, oui, d'accord, t'es gentil Vincent. Mais que faire? L'apôtre Paul dit dans sa lettre aux Philippiens ceci. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Philippiens 4, verset 6. Il paraît impossible de ne jamais se soucier, parce que nous avons tous des raisons de nous inquiéter. Mais il est important de voir ici le conseil que nous donne l'apôtre Paul, c'est de transformer nos craintes, nos soucis en prière. Transformer nos soucis en prière. Nous voulons moins nous tourmenter, prions plus. Et dès que nous commençons à nous inquiéter, arrêtons-nous et prions. Et tout ça, ça se passe dans notre tête. Hein. Décider de donner l'importance ou pas à ces inquiétudes. Décider de transformer nos soucis en prière. Décider d'agir là où on peut et de laisser à Dieu le soin d'agir là où nous ne pouvons pas agir. Nos inquiétudes ont-elles un impact sur le réel ? Ayons ça toujours en tête. Et puis la troisième question qu'on peut se poser, mais alors de quoi faut-il vraiment s'inquiéter ? Jésus interpelle, les versets 29 à 32, ses interlocuteurs en les déclarant « gens de peu de foi », mais il leur dit aussi, au verset 32, « n'aie pas peur, petit troupeau ». L'inquiétude est liée à la peur et me remettre à Dieu pour l'avenir est un acte de foi. Oui, mon avenir est dans sa sûre main. Oui, Dieu m'aime et c'est ce dont j'ai besoin. Oui, Dieu connaît mes besoins et il y pourvoit. À l'inquiétude et à la peur, Dieu nous invite à la paix et à la foi. Quel est l'objet de mes préoccupations ? Jésus oppose ici des préoccupations du monde à celles de ses enfants. Il leur dit « recherchez d'abord le royaume de Dieu. Recherchez d'abord le royaume de Dieu. » Et je lis ici la note que j'ai dans ma Bible concernant ce verset. « Recherchez d'abord le royaume de Dieu, c'est donner la priorité à Dieu dans notre vie. » Nourrir nos pensées de ses désirs, chercher à lui ressembler, le servir, lui obéir en tout. Et ça nous amène à nous poser la question, mais qu'est-ce qui a vraiment de l'importance pour nous ? Ça peut être notre famille, nos amis, des objets, notre maison, notre voiture, des projets qu'on a, nos désirs. Beaucoup de choses sont en concurrence avec Dieu pour occuper la première place. Et il risque d'y parvenir si nous ne prenons pas la ferme décision d'accorder la première place au Seigneur dans tous les domaines de notre vie. Si nous consentons ainsi à donner aux choses leur juste place, Jésus affirme ceci. Tout cela vous sera donné en plus. Dieu s'occupe du reste. Nous sommes invités à poursuivre le but que Dieu a donné à notre vie sans nous laisser distraire par des préoccupations, bien que légitimes, mais moins importantes. Et nous sommes invités à nous décharger sur lui de tous nos soucis, car l'apôtre Pierre le dit, lui-même prend soin de vous. Lui-même prend soin de vous. Et pour faire référence au Notre Père, si nous prions que ton règne vienne, Dieu s'occupera aussi de pourvoir à notre pain quotidien. Ça ne veut pas dire que le chrétien est exempt de gagner sa vie. Ça ne veut pas dire que le chrétien est dispensé d'agir de façon responsable envers les autres. Cela ne veut évidemment non plus ne pas dire que l'expérience de la difficulté leur est épargnée. Mais soyons assurés que Dieu, dans sa puissance, nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre en lui restant fidèles. Je cite ici 2 Pierre, chapitre 1, verset 3. Dieu, dans sa puissance, nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre en lui restant fidèles. Il nous a fait en effet connaître Jésus, celui qui nous a appelés à participer à sa gloire et à sa bonté. Comment gérons nos inquiétudes? Était-il légitime que je spécule sur qui allait me soutenir financièrement quand j'ai écrit mes lettres? Était-il nécessaire que, à chaque relevé de courrier, le matin, je m'inquiète sur des choses sur lesquelles je n'avais aucun poids? Non. De quoi devais-je me soucier? De ce à quoi Jésus m'avait appelé. Et en me confiant en lui, et Dieu, que Dieu aussi pourvoirait à mes besoins. Et Dieu a toujours pourvu à nos besoins. Nous sommes invités à ne pas nous laisser envahir par nos inquiétudes, mais à les affronter par la foi qui seule peut nous en libérer. En plaçant premièrement toutes nos inquiétudes en perspective, avec la souveraineté de Dieu, avec la bienveillance du Créateur, avec son amour de Père. J'aime beaucoup ce texte d'Ésaïe qui dit « Ne crains pas, ne crains rien car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Placez nos inquiétudes en perspective avec sa souveraineté, sa bienveillance de Créateur, son amour de Père. Et ensuite, en transformant nos soucis en prière, transformer nos soucis en prière et agir positivement quand nous le pouvons. Et enfin, nous l'avons vu dans l'invitation de Jésus à soumettre l'ensemble de nos vies à la Seigneurie de Jésus-Christ, dans un souci de la proclamation de l'Évangile, dans le souci de mener une vie qui reflète la justice de Dieu, dans l'assurance que Dieu nous donnera tout ce dont nous avons besoin. Décidons, mes amis, mes frères, mes sœurs, décidons de faire confiance à notre Père Céleste, exprimons cette confiance en le priant dans nos difficultés. Adoptons une bonne perspective par rapport à nos problèmes, en examinant les moyens de les résoudre au lieu de nous laisser écraser par eux, et entourons-nous de croyants prêts à prier pour nous, pour que nous recevions sagesse et force dans les difficultés.